Au moins, j'arrête là.
Non, tu vas pas arrêter acte 1, scène 1. T'aimes pas le théâtre, en fait.
Je m'ennuie un peu, je fais un peu chier.
Levée de rideau. Mise en scène par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Déjà, un spectateur, c'est pas beaucoup. Si en plus il dort...
Bonjour, bonjour à tous. Nous continuons nos visites ou nos spectacles pendant le Off d'Avignon. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter deux comédiens, deux acteurs, une actrice, un acteur. Alors d'abord, Françoise Naon pour Ida L. Negotfeld au théâtre de l'Oriflamme tous les jours à 17h30. Attention, il y a un jour de relâche, donc faites attention quand vous réservez. Et en deuxième partie, Mathieu Le Goaster, qui est au reste dans Heureux les orphelins au théâtre des Gémeaux tous les jours à 16h45. Je suis encore sous le coup de l'émotion après avoir vu la pièce Ida L. Negotfeld jouée par Françoise Naon qui est là devant moi. Bonjour et merci.
Merci à vous.
Vous vous remettez de l'émotion. Hein, qui
c'est toujours un petit peu difficile de redescendre.
De redescendre.
Mais quand on voit ce beau sourire, ça va.
C'est gentil, merci. Et le metteur en scène, donc Patrick Zeff Samet.
C'est moi.
C'est vous.
Bonjour.
Et vous m'avez dit, en fait, quand il y avait un problème de mise en scène, Ida était parmi nous. J'ai trouvé que c'était une très belle introduction. Alors, je tiens à dire que cette pièce se joue à l'Oriflamme du 3 au 21 juillet à 17h30, les relâches les lundis, et que dans le contexte actuel, reparler de la Shoah, reparler du fascisme, reparler d'Hitler, ça peut peut-être faire réfléchir pour les prochaines législatives. Et je pense que tous les deux, c'est un sujet qui vous a toujours interpellé. Et là, la pièce de Eric Zanettaci, en fait, n'a été que le support, je pense.
Oui. En fait, Eric, quand il a confié la pièce à Patrick, on a beaucoup discuté tout au long du travail. On lui rendait compte au fur et à mesure des répétitions du travail. Patrick l'appelait quasiment tous les jours. Et en fait, le souhait d'Eric, c'était aussi de rendre cette pièce comme universelle, en fait. C'est un sujet qui touche tout le monde.
Mais au théâtre, c'est particulier. Il l'a écrite pour le théâtre.
Oui, hein, c'est un dramaturge.
D'accord.
C'est pas, alors, c'est son histoire. C'est l'histoire de sa famille. Hein, c'est l'histoire de son arrière-grand-mère. Mmh. On va en parler peut-être un peu plus. Mmh. Mais c'est aussi avant tout un auteur.
Donc
c'est pour ça que cette pièce, il y a un fil qui est très tendu, qui a ce suspense, qui a cette écriture qui fait que...
Oui, on fait des allers-retours entre Odessa, entre Paris, est à Drancy, on est dans les wagons, on est à Auschwitz. C'est vraiment une écriture
Oui, quand on a créé la pièce à Nice... la Russie envahissait l'Ukraine. Mmh. Or, Ida vient d'Odessa. Donc, c'était très fort aussi pour nous de jouer cette pièce à ce moment-là.
Quand elle parlait de la mer...
D'Odessa, comment les pogroms, quand elle parlait de... Quand elle parle de tout ce qu'elle a vécu avec sa famille, qui se sont cachés dans la cale d'un bateau, etc. Et quand on a repris la pièce à l'automne, c'était juste après le 7 octobre. Donc, ça a été... et aujourd'hui, on reprend la pièce à Avignon et on a ce contexte politique. Et la pièce, on a eu cette impression, devient presque une pièce politique. Et c'est très important pour nous de la jouer et de la montrer et qu'elle soit vue par des jeunes aussi.
Oui, parce que ça peut sembler... On connaît l'histoire, mais les jeunes ne la connaissent peut-être pas. Et quand on voit justement... certains discours d'extrême droite ou même de droite, de xénophobie, de racisme, on ne peut que, comme vous dites, dire c'est universel. Et rappeler donc ce souvenir de Ida L. Negotfeld. Donc, ils ont quitté Odessa donc, en 1905. Et comment Eric Zanettaci a retrouvé tous ces documents, Patrick?
Ben, je pense qu'il les avait depuis longtemps.
Enfouis quelque part, oui.
Alors, pas nécessairement enfouis, je ne saurais pas précisément vous dire, mais ce sont des documents de famille qui sont présents. Alors, Je n'ai jamais discuté avec lui de l'élément déclencheur qui fait qu'il a voulu écrire cette histoire. C'est vrai d'ailleurs que je pourrais lui poser la question un de ces jours.
Parce que souvent, enfin, on dit que 73, la guerre des six jours, a été un révélateur pour beaucoup de personnes en disant là, on n'en parlait pas avant 73, on en parlait très très peu. Hein.
Non, on avait honte aussi.
Oui, on avait honte aussi. On passait à autre chose.
Oui, elle donc, disait, comme le dit Ita dans la pièce, elle ne disait pas qu'elle était juive, elle ne disait pas bonjour monsieur. Je voudrais une botte de poireaux et je suis juive. On disait pas.
Mais là, moi, je trouve, enfin, l'élément qui m'a le plus troublé dans cette pièce, c'est comment arriver à faire passer dans une pièce de théâtre la spoliation, c'est-à-dire la voisine qui en fait vient pour prendre les clés, pour en fait prendre tout, piller vraiment. Et c'est vraiment la nature humaine, c'est vraiment le.
Oui, mais ça, effectivement, c'est quelque chose qui était hélas très très répandu à l'époque. Enfin, même souvent, on ne demandait même pas les clés. On les avait.
Mais on savait qu'elle allait partir, qu'elle allait être arrêtée. Donc, une pièce donc, très théâtrale. Donc, le metteur en scène.
Ce que je voudrais juste souligner à ce propos-là, c'est que cette dame qui vient de demander les clés, ce n'est pas une connaissance. C'est pas n'importe qui.
Elle les a accueillis.
C'est quelqu'un, 30 ans c'est un couple que Ita connaît depuis 30 ans.
Ouais. Qui les a accueillis, qui les a aidés.
Et d'un seul coup, avec cette espèce, avec cet antisémitisme d'État, et cette espèce d'autorisation de l'État vichiste, de dire voilà, si vous êtes antisémite, vous pouvez, et même on vous le conseille. Il y a beaucoup de choses qui se dévoilent. Et ça pose d'ailleurs la question, est-ce que l'être humain, comment dire, se retient parce que la loi le force à se retenir ou est-ce que l'état de nature dont parlait Rousseau, est-ce que l'homme est bon naturellement? On peut se poser la question.
Mais c'est le problème de la loi, c'est le problème aussi, et là je parle un peu de ce qui se passe actuellement, de la dédiabolisation, c'est-à-dire que jusqu'en 2002, le FN était c'est tout de même considéré comme deux, et que maintenant, on s'en revendique. Hein. Donc, cette pièce, comme vous le disiez tout à l'heure, Françoise, elle est vraiment d'actualité.
Exactement.
Alors, pour revenir à la pièce, et donc le metteur en scène, hein, comment vous gérez cela, et l'actrice, la comédienne. C'est une femme plus âgée que vous, c'est une femme pas très instruite, hein, elle vendait des aiguilles.
Des aiguilles sur les marches.
Elle n'a pas beaucoup de culture politique, je dirais, elle n'en a même aucune, pas du tout. Hein, son fils Jacques est à Drancy, comme si c'était un petit village de vacances.
C'est ça.
Alors comment vous, avec votre métier, votre culture, votre vie de théâtre, comment aborder une femme aussi simple sans qu'on la juge et pour qu'elle soit, entre guillemets, sympathique? C'est-à-dire, c'est elle, mais c'est aussi toutes ces femmes.
Elle est, comme disait Patrick, et c'est exactement ce qui s'est passé vraiment. Quand j'ai commencé à travailler le personnage d'Ita, à la première lecture, pratiquement, elle était là, avec nous. C'est quelque chose d'absolument... C'est pas mystique, on n'est ni mystique ni l'un ni l'autre. Hein. Je suis même pas croyante. Ita était là. Et au départ, Patrick m'avait dit, tu n'auras pas d'accent. Eric, il n'est pas... Zanetachi, l'auteur, n'est pas forcément pour un accent, etc. Et puis un beau jour, ça faisait 3 ou 4 répètes, paf.
Oui, c'est venu.
C'est venu. Et Patrick me dit, mais d'où tu sors ça? Et je dis,
je me suis posé la question en vous écoutant, en vous disant, ça a l'air tellement naturel, ça a l'air tellement... c'est même pas un accent, on se dit pas, tiens, elle a un accent, tiens, elle imite un accent, on a l'impression que c'est vous.
On ne sait pas d'où ça vient.
On ne sait pas d'où ça vient. Oui. Alors, en plus, je n'ai absolument personne dans ma famille qui ait ce type d'accent, enfin, je ne sais pas. Alors, c'est très mystérieux. Et pour répondre, Sylviane, à votre question... Alors, Ita, c'est devenu une amie, une maman, une grand-mère. Et les personnes, le public, quand ils voient cette pièce, c'est exactement ce qu'ils... Enfin, des retours que nous avons pu avoir, c'est ce qu'ils ressentent aussi. Même les jeunes, on a fait des représentations pour les scolaires.
Ça c'était... pourrait être leur grand-mère, enfin leur arrière.
Et
arrière,
alors, tout tournait autour de la famille. Et Anna, qu'est-ce qu'elle est devenue et etc. Et ils voulaient en savoir plus. Et d'ailleurs, vos questions. Oui. Vous aussi, vous avez envie d'en savoir
plus. Moi, je voulais savoir... Bon, Jacques est né quand Ida arrive en France, donc en 1906.
C'est ça.
Hein, donc, je voulais savoir ce qu'il... Si,
on a envie
il de... a été à Drancy, il a été déporté... Il est revenu. Et donc, c'est là où ça rejoint la famille d'Éric Zaninacci. Mais je dirais qu'à la limite, c'est n'importe quelle famille juive. Je veux dire, ça pourrait être...
D'ailleurs, dans le public, il y a souvent, je ne sais pas, au moins 10 ou 15 personnes qui ont dans leur famille des drames équivalents dont leur famille a été victime. C'est absolument très courant. Voilà.
Moi, c'est ce que je vous ai dit. Moi, effectivement, c'est moi, mon grand-père... en décembre 41 est parti de la même manière, sauf que effectivement lui on lui a pas donné une heure. Il lui est parti à Compiègne puis Auschwitz.
Mais là c'est le problème justement de l'engagement personnel. C'est on sait qu'il y a quelques gendarmes qui étaient dans la résistance, on sait qu'il y a quelques policiers qui ont prévenu. Donc mais c'est le problème vraiment de la manipulation politique du pouvoir. Et je crois que c'est ça qui est important dans une période électorale aussi. C'est l'homme, enfin l'être humain, a le choix. Mais jusqu'à quel point a-t-il le choix ?
C'est ce qu'on se disait, on en parlait ensemble il y a quelques jours, et nous, comment on aurait réagi ? Sincèrement.
Oui. Parce qu'à un moment, on a l'impression qu'elle va peut-être partir avant.
Oui, deux fois. Oui.
Deux fois. Mais pour aller où ?
Elle le dit, mais j'irai où ? Oui. Et c'est vrai, comme vous le soulignez, c'est quelqu'un qui est simple, qui a eu une vie où elle a été très entourée, je dirais presque, à part la cuisine, le ménage, bon, des tâches relativement simples. Elle cousait, elle travaillait quand même. Hein.
Mais je trouvais que vous traduisiez très bien, bon, c'est le texte, et c'est votre talent, et c'est la mise en scène. Ça traduit très bien le bonheur. On arrive tout de même dans ce drame à avoir des moments de bonheur. Mais des bonheurs simples.
Des bonheurs simples. C'est ses enfants, c'est ses petits-enfants.
Puis le fait qu'elle couse sa robe, là, c'est la mise en scène.
Ah, c'est la mise en scène, complètement.
Ça, fait partie, justement, des questions...
Des petites choses.
Des questions qui se sont posées. Et l'idée de la robe, j'évoquais tout à l'heure, parfois un doute, qu'est-ce qu'elle peut faire l'idée de la robe, encore une fois, est arrivée directement. Et je me dis, mais c'est... Comment moi, Patrick, je ne peux pas avoir cette idée-là.
Bien sûr. Ouais.
Oui, ce n'est pas écrit du tout par Andy Dascali. On n'a pas du tout cette indication-là. Donc ça vient de Patrick.
Et puis Eric, je pense, a vu la...
Il a vu la première. Alors la première, c'était une première.
Et ça l'a profondément ému. Alors qu'il connaît tout.
Il connaît tout. Et puis,
mais elle n'était pas incarnée, alors que là, elle est...
Alors il l'avait, bien sûr... la pièce avait été créée à Paris il y a combien de temps ?
Il y a 22 ans.
Une vingtaine d'années par Hélène Vincent, quand même. Pas rien. Au Petit Saint-Martin. À Paris, et donc c'était une version complètement différente. Donc je pense qu'il avait quelques interrogations. Il ne connaissait pas. Il connaît Patrick, bien sûr, mais il ne m'avait jamais vu jouer. Et puis on fait une proposition complètement différente en plus.
Moi, je n'ai pas la comparaison, mais c'est intéressant. Et je vous remercie, toute l'équipe de l'Oriflamme, la technique, la musique, parce qu'il y a ces musiques de fond. Ce que j'ai beaucoup apprécié, que souvent on n'a pas dans le théâtre, c'est des moments où il n'y a rien. Des moments de blanc, quand elle coud un moment, elle regarde par la fenêtre.
Quand elle écrit la lettre.
Je ne veux pas dévoiler la fin, mais je pense que c'est important justement de donner aux spectateurs l'occasion de
respirer.
De respirer, mais en plus, entrer dans l'histoire.
Et dans une intimité, il y a quelques personnes là qui m'ont dit... On était avec vous dans l'appartement. J'ai dit, mais c'est magnifique comme compliment. Parce que...
Oui, alors bien sûr, il y a les costumes, il y a la lumière, il y a ça.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a surtout le texte et puis surtout votre interprétation.
Merci beaucoup.
Merci. Et puis je pense qu'on se reverra plus longuement pour parler du théâtre en général, qui souffre beaucoup actuellement, c'est une véritable passion. Et je vous en remercie beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Mathieu Legaster, bonjour.
Bonjour Sylviane.
Alors nous sommes sur la place Pie, il ne fait pas trop chaud, du Mistral.
Très agréable.
C'est l'ambiance.
Oui.
Alors, nous sommes là pour parler d'Euro les orphelins, qui a eu déjà du succès en 2023. Je vous avais déjà interviewé.
Exactement.
Mais là, ça démarre fort, bien que, officiellement, le festival, ça commence demain. Mais vous avez bien fonctionné.
Oui, exactement. Alors, en fait, c'est un peu compliqué, ces heures de date. Les gens ne s'y retrouvent pas trop. Les Avignonnais, nous, on évangélise dans les rues en disant que ça avait déjà commencé. Et on a tracté depuis plusieurs jours. Et on a commencé le 29 au Théâtre des Gémeaux. Et on a eu la chance d'avoir vraiment une très belle salle dès le premier jour. Et hier également, le 30 juin. Donc, on est très, très contents de ce démarrage. Je pense qu'on surfe aussi sur le bouche à oreille de l'année dernière. Le tractage qui est efficace, c'est génial.
Et puis, vous êtes passé à la télévision.
On a eu un joli petit reportage, exactement.
Et c'est bien parce que dans ce reportage, il y avait tout l'aspect administratif. Parce que bon, vous êtes des artistes, vous avez parlé de vos comédiens avec vous, mais il y a tout un côté très lourd, hein, de jeunes qui veulent faire vraiment leur métier. Et vous y arrivez, vous avez l'air rayonnant.
Merci beaucoup.
Alors, c'est pour Heureux les orphelins. C'est le texte et la mise en scène est de Sébastien Bizot. Et c'est donc vous, avec votre compagnie, jeune compagnie. Pourquoi vous avez choisi cette pièce? C'est l'auteur qui vous l'a demandé?
Sébastien. C'est Sébastien qui avait cette pièce en tête depuis de nombreuses années et il avait envie de traiter du sujet des mots et de la place du langage. Et il a trouvé que ça se mariait vraiment très bien avec ce mythe antique, issu du mythe de Sophocle, réinterprété par Jean Giraudoux il y a quelques années maintenant, et repris par Sébastien, librement inspiré d'Electre de Giraudoux, mais avec le mythe en toile de fond, il a considéré que c'était un bon parallèle avec notre époque parce qu'il y avait ces histoires de famille qui sont très intemporelles. On a un frère et une sœur qui cherchent la vérité sur l'histoire de leur père.
Ça
une
se
mère,
toujours.
Ça se bagarre. Une mère pas très aimante qui a des secrets qui est difficile à avouer. Et tout ça pour parler de la place des mots et du langage et le fait de parler et de dire les choses. Et un parallèle que Sébastien fait souvent, il m'en voudra pas de trahir cette métaphore, c'est notamment l'utilisation des mots et du langage pour traiter des différends et des disputes. Et il dit, il y a encore 70 ans, on traitait les duels à l'Assemblée nationale à coups d'épée. Et aujourd'hui, c'est des joutes verbales sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans l'Assemblée. Et donc, il a voulu traiter de cette place des mots en reprenant cette pièce. Et c'est autour de cette pièce et de ce premier projet qu'on a créé la compagnie Hors du Temps pour porter cette création l'année dernière.
La compagnie a été créée, je ne me souvenais pas.
Tout à fait.
Alors, vous parlez de l'Assemblée nationale, on est entre les deux tours. Les artistes sont très, enfin pas que les artistes, sont quand même très inquiets. Mais Electre, puisque c'est librement inspiré d'Electre, ça m'avait un peu perturbé l'an dernier quand j'avais vu Electre. Je me disais, mais et puis en fait, ça marche très bien, quoi. Je veux dire, le mythe, c'est le but d'un mythe, en fait, c'est d'être intemporel.
C'est là qu'on voit que les mythes sont intemporels.
Ouais.
C'est assez fascinant parce que moi, je connaissais pas bien le mythe d'Electre de Giraudoux. Quand on traque les gens dans la rue, certains connaissent très bien, d'autres pas du tout. Et en fait, on s'aperçoit que c'est que des. Parce que je pense que c'était des visionnaires à l'époque et qu'ils ont traité. Visionnaires, oui et non, c'est-à-dire qu'ils ont traité le mal de leur époque qui étaient des problèmes de famille, des problèmes de société et d'organisation de la vie. Bah, ça reste les problèmes qu'on a aujourd'hui malgré le développement de la technologie et l'évolution de nos sociétés. Aujourd'hui, on a tous des problèmes de famille, plus ou moins graves, heureusement pas tous graves. On a des problèmes politiques, de communication et d'organisation de notre vie dans la cité. Bah, ça reste la même chose.
Mais ma question, en fait, c'était comment vous, entre guillemets, vous justifiez Electre pour quand vous tractez, vous dites, vous inquiétez pas. On part d'Electre, mais...
Alors, en fait, on sent très vite si les gens sont réactifs à Electre. Quand on sent qu'il y a des gens aiment le Giraudoux ou connaissent, ben voilà, on fait le parallèle et on dit vraiment que c'est cette histoire projetée en 2024. Et quand les gens ne se connaissent pas, et je les mets tout de suite à l'aise en leur disant que moi, quand j'ai lu la pièce pour la première fois, je ne connaissais pas Electre de Giraudoux, parce que parfois, ils se sentent un peu mal. Non, je ne connais pas. Est-ce que j'ai honte de... C'est la honte de ne pas connaître.
Est-ce que je vais comprendre?
Voilà. On leur dit qu'en fait, ça reste une histoire de famille, une famille qui se déchire, comme il en existe tant, projetée aujourd'hui pour prétexte de parler des mots et du langage. Et la notion de mots et la manipulation du langage résonne beaucoup avec les gens en contract et ça les intéresse beaucoup.
Mais comme vous l'avez testé l'an dernier, hein, dans une plus petite salle, là, parce que là, il y a 175 places au théâtre Les Gémeaux. Le théâtre
176 Gémeaux. Même, parce que sinon, le directeur va me gronder.
Oh, 176, pardonnez-lui. La même troupe? Non, il y a un petit changement.
Il y a un comédien qui a changé, Jean-Baptiste Germain, qu'on salue, qui a dû laisser sa place pour des considérations personnelles. On accueille Emmanuel Gori, un super comédien très expérimenté que je vous invite à venir découvrir parce qu'il a vraiment eu un super parcours. Il a joué peut-être pour certains festivaliers réguliers dans Le Roi des Pâquerettes il y a quelques années ou dans Et si on ne se mentait plus. Et il nous a rejoint il y a quelques semaines pour ce festival. On est très heureux.
Il n'a pas eu trop de mal à s'adapter parce que je pense, moi je vais aller la voir cet après-midi, la pièce, je pense qu'il y a eu quelques changements. Déjà avec un comédien en plus, ça change. Puis vous avez amélioré.
Alors évidemment,
on patiente.
on sentait que c'était encore un petit peu
en rodage. Ouais, alors déjà c'était notre premier Avignon à tous, sauf à Jean-Baptiste. Donc là, le rythme de jouer tous les jours, c'est pas évident. Ça, on l'a bien emmagasiné. Emmanuel a été assez impressionnant parce qu'il joue un des deux comédiens. Paul Martin et lui ont un multi-rôle.
Oui, si tu te souviens
un petit peu. Et donc c'est pas évident de prendre tous les rôles, les changements, les incarner correctement. Il a été assez bluffant là-dessus. Et nous tous, je pense qu'on a aussi grandi. On a eu quand même 20 représentations supplémentaires l'année dernière et on a évolué tout au long de ce festival. Et à la fin du festival, je pense que la pièce maintenant est bien montée, bien créée. Et pour la preuve de ça, je pense, c'est qu'on a eu la chance de jouer en novembre en région parisienne, une date de tournée dans une ville. Donc ça faisait presque 6 mois qu'on n'avait pas joué.
Ouais.
Et c'est revenu très facilement et on a fait une super représentation.
Alors depuis novembre, vous ne l'aviez pas rejoué non plus ?
Non, pas en représentation publique.
C'est ça, moi, je trouve publique. Ça admirable tout de parce que vous avez fait autre chose entre-temps, je suppose, c'est votre métier.
Exactement.
Donc ce côté caméléon, on passe de l'un à l'autre. Et la mémoire fonctionne, ça va, ça...
C'est ça qui est très excitant. C'est vrai qu'on a fait quand même quelques répètes début juin pour se remettre un peu dans le bain, mais on n'a pas joué devant du public. Et on a eu la chance de... Moi, j'ai eu la chance de rejouer dans une autre pièce, à Paris, au mois d'avril, au mois de mai, un Oscar Wilde, avec un texte complètement différent, une autre époque. Et c'est une question qu'on nous pose souvent sur le texte, un peu comme un disque dur, est-ce qu'il y a encore de la mémoire, de la place, etc. Finalement, le texte est tellement associé à une situation, et à des personnages, et à des camarades sur scène, que je vais jamais pouvoir me mélanger et le texte va pas disparaître. Et on a fait le test un jour avec Paul, justement on était allé voir une pièce à Paris et puis on boit un verre après, il me dit mais ça fait longtemps qu'on a pas fait le texte, je veux pas qu'on se fasse la première scène là comme ça. Et puis on l'a faite et le texte revient très facilement.
Oui. Mais c'est un muscle la mémoire.
Exactement, et ça s'entraîne.
Il faut aussi l'entraîner. Là à Avignon vous jouez que Heureux les orphelins.
Oui.
Parce que parfois on connaît des acteurs qui
font deux ou trois pièces.
Là, vous vous concentrez là-dessus.
À fond sur Heureux les orphelins.
Et puis, vous êtes 5 sur scène, donc ça demande aussi beaucoup
d'organisation.
Ouais. Le plateau des Gémeaux est plus grand que c'était à
l'Oriflamme. J'en profite pour saluer Patrick et Julien qui nous ont fait confiance pour notre premier Avignon. Et on était très heureux de jouer dans ce très beau théâtre de l'Oriflamme.
Comme je le disais, on est aussi pour favoriser les jeunes.
Ouais. Et ça, c'est tout à leur honneur et je les embrasse fort. Le plateau des Gémeaux est plus grand, la salle en jauge, mais aussi le plateau, ce qui ne change pas vraiment notre mise en scène. On avait une mise en scène et on a une mise en scène toujours avec un banc type salle d'attente qui volontairement est une mise en scène très épurée. On a un petit peu évolué sur de la scénographie vidéo qui accompagne un peu l'ambiance des salles et des lieux, mais volontairement on voulait que ce soit des changements très simples. Aujourd'hui c'est ce qui se fait de plus en plus dans le théâtre, les noirs au théâtre ça disparaît de plus en plus pour changer de scène. Aujourd'hui c'est des changements très rapides et je sais pas si vous vous souvenez, Sébastien dans son écriture reprend le premier mot et le dernier mot de la scène suivante et donc ça oblige à faire des changements très rapides et donc cette mise en scène très épurée fait que le rythme est très soutenu.
Oui, le rythme. Et puis vous parliez des doubles rôles, moi j'avais été fascinée. Je me souviens du garçon de café, il m'avait vraiment marqué parce qu'il suffit de mettre un torchon
sur
l'avant-bras.
Exactement.
Et puis pour que. Voilà, il est dans.
Ah oui, c'est lui, il a six rôles, si je ne dis pas de bêtises, et Emmanuel en a 5 ou 6. C'est un truc d'équilibriste.
Non.
Ils en ont des plus. Paul joue plus Pilade, l'assistant d'Oreste, et qui revient plus régulièrement. Mais non, il les aime tous, je crois que c'est ce qui est fort aussi. Moi, j'aime beaucoup aussi incarner ce personnage d'Oreste du début à la fin qui va évoluer. Et l'autre facette du comédien, c'est d'incarner plein de rôles plus petits, mais qui sont très riches aussi. Ça, c'est très excitant. Et Paul Martin, pour l'anecdote, et ni moi. Donc peut-être que les auditeurs de Radio Alliance ont déjà entendu parler de lui.
D'accord. Donc voilà, là c'est le début. Vous jouez tous les jours. Il y a une la relâche sont les mardis.
Exactement.
Faire attention. C'est à 16h45. Ça dure 1h15.
1h20.
1h20. Vous pensez que ça va encore évoluer sur... vous jouez jusqu'au 21.
Exactement.
Vous pensez que ça évolue? Non, après, là, vous restez...
Je pense que là, on va dire que 90% de la pièce ne bougera plus. On a les rails. Et c'est ce que nous disait notre metteur en scène pas plus tard qu'hier. Il nous disait, maintenant, vous avez les rails. Maintenant, vous pouvez vous permettre de sortir des rails. Et donc, ce qui est beau dans ce métier, parce qu'on a des amis parfois qui ne sont pas forcément dans le milieu, mais c'est pas trop ennuyant ou lassant de jouer tout le temps la même pièce. Là, on va faire le 15 juillet notre 50e de cette pièce. Et c'est exceptionnel. Et en fait, c'est toujours nouveau parce que la réaction du public n'est pas la même.
Oui.
Et donc nous on essaie aussi de trouver des petites nouveautés, on va pas avoir exactement la même réaction. Les rires, les applaudissements vont pas être exactement au même moment. Donc forcément on joue pas tout à fait la même pièce le même soir, même si évidemment le gros du sujet est le même.
Est-ce qu'il y a des jours où il y a un peu, parce que vous êtes jeune, vous avez votre vie, il y a des jours où on peut avoir ses soucis personnels, où on peut avoir été un petit peu malade, où
évidemment.
On n'a pas le moral, ça arrive à tout le monde. Hein. Est-ce que vous arrivez à vous concentrer? Comment vous faites pour vous concentrer avant d'entrer en scène?
Pour moi, c'est la mission d'un comédien, c'est de laisser les soucis en dehors du plateau. ça c'est très personnel. Je pense que c'est se mettre dans sa bulle. Peut-être aussi que certains soucis peuvent nous nourrir. Voilà, si on a des problèmes personnels, si on a des choses très positives, ça va nourrir nos rôles. Surtout cette pièce où il y a des moments très très intenses en termes d'émotion, en termes de d'intensité entre les personnages, notamment dans la famille. On se doit, par respect des comédiens, de la pièce, de nos camarades et du spectateur, de jouer une partition à fond tous les jours et que nos soucis personnels, on les retrouve à la sortie.
Et on sent cet enthousiasme-là. Je vous sens encore plus épanoui que l'an passé, Mathieu.
C'est possible.
Vraiment heureux.
Ouais, hein, très heureux. C'est une aventure incroyable parce que tu évoquais tout à l'heure le reportage France 3, on parlait de la production. C'est une aventure presque entrepreneuriale, artistique. On est une compagnie indépendante aujourd'hui. Il y a des centaines de compagnies indépendantes aujourd'hui à Avignon, mais aussi des grosses productions. Et réussir ce qu'on est en train de faire là, et de vivre cette aventure dans un si beau théâtre, avec une si belle pièce, avec nos petits moyens et nous qui avons travaillé depuis de nombreuses années, moi, c'est magique.
Et alors, je lis ce qui est sur le devant de ton
T-shirt.
Oui. Parce que derrière, c'est la pièce, hein, Heureux les orphelins. Et là, c'est ce qui est tu.
Donc, c'est notre phrase d'accroche quand on tracte. Les gens confondent souvent avec le tutoiement, mais c'est vraiment le tu du verbe taire, ce qui est tu du verbe taire, de ce qui n'est pas dit.
Moi, j'avais compris comme ça, ce
voilà.
qui est tu.
Exactement. Parce que tu connais la pièce.
Ah, ce qui n'est pas dit peut
faire mourir. Voilà le sous-titre. Et c'est vraiment tout le sujet de cette pièce, c'est la place des mots et comment on utilise aujourd'hui le langage dans notre société.
Ah bah, je peux dire que tu l'utilises très bien, le langage.
Merci Mathieu. Sylviane.
Eh bien, bon festival à tous et rendez-vous très bientôt pour deux autres spectacles.